Bonsoir, bienvenue pour cette conférence de Jean-Paul Branlard, qui est enseignant-chercheur et maître de conférence à la faculté Jean Monnet et aussi l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages que nous avons à la bibliothèque et entre autres « La table et le droit », ce très beau livre est très intéressant et le tout dernier qui vient de sortir que vous avez à côté. Donc, vous pourrez les consulter à la fin de la conférence et je vous laisse la parole.
Eh bien, merci. Eh bien, merci à tout le monde d'être là et puis de vous intéresser à la gastronomie, mais enfin, une niche dans la gastronomie, puisque moi, j'étudie essentiellement le droit en matière culinaire et gastronomique, c'est-à-dire en fait la législation écrite, le droit édicté, puis aussi le droit spontané, c'est-à-dire en fait les usages professionnels, car en matière culinaire et alimentaire, il y a beaucoup d'usages professionnels que les juges ont depuis très longtemps reconnus comme étant des sources du droit, et on condamne souvent d'ailleurs, en matière de tromperie, qui est un délit extrêmement fréquent, à partir des usages professionnels. Et évidemment, mon travail consiste à rechercher le maximum de décisions pour voir sur quel produit, quelles sont les tendances. Et on voit évidemment qu'au fil des années, on ne juge pas toujours de la même manière. La jurisprudence, qui est le droit vivant, puisque ce sont les décisions des juges, reflète un petit peu aussi l'évolution. Et aujourd'hui, la jurisprudence en matière alimentaire n'est plus tout à fait la même que celle d'il y a 15 ou 20 ans. Ça va de soi, tout bouge, y compris ce domaine. Donc, ça fait une niche, en fait, dans le domaine de la gastronomie. Alors, ça peut paraître complexe, parce que, évidemment, il faut connaître à la fois un petit peu les règles culinaires, mais ça, je vous fais confiance, si vous êtes là, c'est qu'apparemment, vous les connaissez un peu, ou vous y intéressez. Il y a les professionnels, peut-être, ou les autodidactes. Mais enfin, tout ça montre que les gens s'y intéressent. Là où ça pêche le plus, peut-être, c'est peut-être les règles juridiques, car on n'est pas forcément tous juristes, hein, c'est pas inné. Bon, cela dit, on arrive toujours à faire passer en langage simple des choses qui ont l'air un petit peu compliquées. Mais il est certain que si on croise à la fois la cuisine, la gastronomie et les règles de droit et la manière dont les juges appliquent, ça peut paraître parfois au profane un petit peu complexe, subtil, d'où le restaurateur qui est condamné, d'ailleurs, ne comprend pas pourquoi il est condamné. Il faut que son avocat lui fasse un petit cours après et lui explique qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et encore, je ne parle pas du cuisinier qui, alors lui, ne comprend rien du tout. Mais ça peut se comprendre car les règles sont très, très subtiles. Alors, comment aborder, si vous voulez, un peu ce thème qui tourne autour de ce qu'on appelle la jurisprudence, les décisions des juges et la matière qu'est la gastronomie, la cuisine? Ben, on peut aborder le sujet de 36 manières. Hein. Sans doute le plus intéressant pour vous montrer l'importance, c'est de commencer de très haut et puis descendre et arriver en fait jusqu'à notre assiette. Disons, si vous voulez, l'idée, c'est que quand nous mangeons, dans notre assiette, il y a forcément des produits, et on peut dire que 95% de ces produits sont réglementés. Dans cette réglementation, il y a à peu près 5% de règles, on pourrait dire, juridiques mondiales. Vous avez à peu près 80%, donc c'est énorme, de règles de droit communautaire, car aujourd'hui, c'est le droit communautaire qui règne en maître sur le droit alimentaire. Et puis, il reste à peu près un petit 10% de droit encore franco-français. Alors qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était l'inverse. C'était le droit franco-français qui dominait dans l'assiette, qui régissait pratiquement tous les produits. Et il n'y avait pas encore de droit communautaire avant 57, évidemment. Et puis, petit à petit, ce droit communautaire a complètement grignoté, rongé notre spécificité en matière de législation alimentaire. Et ce qui n'empêche pas que nos juges, évidemment, appliquent le droit communautaire. Car vous savez sans doute, comme ça, par information, que ce droit communautaire fait partie du droit national. Les juges français ont l'obligation d'appliquer le droit franco-français, mais également communautaire, voire le droit mondial lorsqu'il existe. Alors, si vous voulez, pour mieux comprendre et voir aussi comment il y a interférence entre les règles mondiales alimentaires, les règles communautaires, Union européenne, interférence sur le droit national français, le mieux, c'est de partir de cette idée qu'il y a d'abord, on pourrait dire, la table du monde, Ça veut dire des règles alimentaires qui nous viennent de très haut, très loin, comme vous allez le voir. Et puis en plus on peut s'attabler à la table de l'Europe et voir justement ce droit communautaire et comment il interfère sur le droit franco-français. Et puis ensuite, eh bien, à la table de France, où nous verrons notre droit, ou ce qu'il en reste en matière alimentaire. Donc je vous propose un petit peu ce plan-là, à la table du monde, à la table de l'Europe, et puis à la table de France. Alors à la table du monde, c'est sans doute la partie que le grand public connaît le moins, car il ignore, en mangeant, qu'il y a des hautes instances internationales où on fait du droit alimentaire. Alors il y a deux choses principales dans le cadre d'une soirée comme ce soir qu'on peut indiquer. C'est d'abord l'importance et l'interférence sur notre assiette du droit de l'OMC. Et puis nous verrons la deuxième chose à propos de la table du monde, les interférences du droit qu'on appelle du Codex Alimentarius sur éventuellement, évidemment, notre assiette. Donc à la table du monde, j'ai deux choses à dire. Interférence des règles de droit de l'OMC et interférence des normes du Codex Alimentarius sur ce que nous mangeons au quotidien. Car on part du principe qu'on est devant notre assiette, et dedans il y a évidemment différentes choses, et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que l'OMC a à voir là-dedans? Qu'est-ce que le Codex Alimentarius a à voir avec le contenu de mon assiette? Donc ça, c'est ça. Alors, si on regarde les interférences de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, par rapport à ce que j'ai dans mon assiette et ce que je vais manger, ça vous donne en gros ceci. L'OMC, en gros, aujourd'hui, c'est à peu près la date, 1994, disons, et ça regroupe tout de même quelque chose comme 153 États du monde, plus l'Union européenne, qui est une organisation d'États. Donc, ça représente quand même du monde, hein, mine de rien. 153 États souverains plus l'Union européenne. La France est membre de l'OMC, l'Allemagne aussi, mais l'Union européenne, elle l'est en tant que part entière. Alors, qu'est-ce que l'OMC vient faire dans cette histoire de ce que je vais manger ce soir, par exemple? Eh bien, que les règles de l'OMC ont pour objectif, si vous voulez, de faciliter la libre circulation des marchandises et donc des aliments entre ces pays membres de l'OMC. Puis, le deuxième objectif, c'est de protéger la santé des consommateurs. Et le troisième objectif, eh bien, c'est de fixer des règles loyales entre les différents opérateurs qui travaillent dans le domaine alimentaire. Bon, très bien. Alors ça, c'est le général. Et arrivons-en à ce qu'on veut montrer. Lorsqu'un pays est membre de l'OMC, ça veut dire en gros que il s'engage à l'égard des autres pays membres à recevoir leurs produits alimentaires sur son territoire. Et en échange, eh bien, il espère bien, ce pays, qu'il pourra faire de même dans les autres pays membres de l'OMC. Autrement dit, je reçois tes produits alimentaires, tu ne me fais pas de barrage pour protéger tes éleveurs ou tes producteurs, et puis inversement, eh bien, moi, je peux envoyer mes produits et tu ne me feras pas un barrage et inversement. Bon, donc, c'est donnant-donnant. Bon, très bien. Alors, dans le cas de l'OMC, il y a des accords, en plus, qui viennent s'ajouter. Il y a, par exemple, un accord sur ce qu'on appelle les normes sanitaires, les règles sanitaires. Ça veut dire qu'en fonction de cet accord, un État pourrait dresser une barrière pour empêcher qu'un autre pays lui envoie des aliments si l'État qui a dressé la barrière eh bien, invoque une raison sanitaire. Bon, tes produits ne sont pas conformes, ils présentent des dangers pour la santé de nos consommateurs, etc. Et puis, il y a un autre accord qui, lui, est un accord technique. Ça veut dire qu'un État membre de l'OMC pourrait dresser une barrière à l'égard des produits d'un autre État en disant « tes produits ne sont pas aux normes telles que nous concevons ces normes ». Donc, c'est pour des raisons ici, non pas sanitaires, mais de normes techniques que nous ne pouvons plus recevoir tes produits ou que nous ne les recevons pas si on ne les a jamais reçus. Ce qui fait que, vous le devinez, à un moment donné, lorsqu'un État dresse une barrière, soit en invoquant l'accord sanitaire, soit l'accord technique, ben, un autre État n'est plus d'accord parce qu'il avait l'intention d'exporter des aliments dans ce pays qui vient de dresser une barrière, ou bien il le faisait jusqu'à là, il ne peut plus maintenant. Alors, il va y avoir un litige, on appelle ça dans le droit de l'OMC un différend entre tel pays et tel autre, tous deux étant membres de l'OMC. Alors, je vais vous prendre un exemple concret tout de suite, un des plus célèbres différends qu'il y a eu au sein de l'OMC, fondé sur l'accord sanitaire, donc sécurité sanitaire. Le plus grand différend, c'est celui qui a opposé les États-Unis et le Canada d'un côté, car les deux pays sont membres de l'OMC, et l'Union européenne, qui, je vous ai dit, est membre de l'OMC. Et l'Union européenne a dressé une barrière à un moment donné pour empêcher que les Américains et les Canadiens exportent sur le territoire de l'Union européenne de la viande de bœuf qui avait été poussée, on pourrait dire, aux hormones de croissance. Donc l'Union européenne, invoquant le principe de précaution qui existe en l'Union européenne, avait dressé une barrière et dit que nous ne recevons pas de la viande de bœuf américain et canadienne à partir de bœuf qui ont été élevés à l'hormone de croissance. Ça présente un danger sanitaire pour nos consommateurs à moyen ou à long terme, on n'en sait trop rien. Donc principe de précaution, barrière. Aussitôt, bien sûr, les deux autres États, États-Unis et Canada, ont invoqué un abus, évidemment, de blocage, en invoquant que c'était en fait pour protéger les producteurs, les éleveurs européens. Donc, un différend né. Et regardez bien ce qu'apporte l'OMC. Parce que l'OMC, vous savez, on a tendance à critiquer. On dit que ça enrichit les pays du Nord riches et ça appauvrit les pays du Sud pauvres. Mais l'OMC, on peut le voir autrement. L'OMC fait que les États ne peuvent pas faire justice eux-mêmes. Le Canada et les États-Unis, si puissants soient-ils, n'auraient pas pu dire à l'Union européenne « Puisque c'est ça, vous ne voulez pas notre bœuf, on ne vous envoie plus, par exemple, de technologie de pointe en matière informatique. Ou bien on vous envahit et on fait la guerre. » Ce n'est plus possible. Dès que les États sont membres de l'OMC, ils doivent régler leurs différends selon une procédure qui est dans un espèce de manuel, on pourrait dire, qu'on appelle le mémorandum. Et voici en deux mots comment se fait cette procédure. Les États qui ont un différend, États-Unis, Canada d'un côté, Union européenne de l'autre, première étape de la procédure, ils doivent se rapprocher eux-mêmes pour essayer de trouver un accord à leurs différends. Ce qui a été fait dans l'espèce du bœuf aux hormones et qui n'a pas réussi. Donc, il n'y a pas pu avoir d'accord. Dans ce cas-là, le mémorandum, il dit qu'il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est qu'on réunit un groupe d'experts. Ce sont des experts mondiaux, scientifiques et qui n'ont pas d'intérêt avec les parties aux différends. Et on en nomme en général 3, 5. Et là, on a nommé des experts mondiaux en hormones de croissance en matière de bovins. Je n'ai pas précisé, mais pour situer, l'OMC a son siège social à Genève. Donc, en général, les procédures se font à Genève. Alors, le groupe spécial, car c'est comme ça qu'on l'appelle, d'experts mondiaux, une fois constitué, eh bien, il entend les parties, Canada, États-Unis et leurs conseillers, leurs experts également, et puis, bien sûr, l'Union européenne. Donc, la procédure est contradictoire. Il y a respect des droits de la défense, etc. Et à un moment donné, ça demande des mois, voire des années, le groupe d'experts rend un rapport avec, bien sûr, des conclusions. Et en l'espèce, eh bien, le groupe d'experts a conclu que l'Union européenne ne rapportait pas la preuve du danger de cette viande bovine dont les bêtes avaient été poussées aux hormones de croissance. Car il faut savoir que dans le droit de l'OMC, c'est l'État qui dresse la barrière, qui doit scientifiquement, par des preuves internationales, démontrer que sa barrière est vraiment fondée sur un risque sanitaire. Or, l'Union européenne n'a invoqué que le principe de précaution, qui, vous le savez, n'est pas une certitude du risque, justement. Donc, le groupe d'experts a conclu que l'Union européenne avait tort et qu'elle devait abaisser sa barrière. Donc, très bien. Qu'est-ce qui se passe après, dans le mémorandum ? Si l'État ou le groupe d'États qui a perdu, ici l'Union européenne le veut, il peut faire appel devant la cour d'appel qui s'appelle l'organe d'appel qui est à Genève. Donc, ça a été fait. L'Union européenne a fait appel devant l'organe d'appel qui est à Genève. L'organe d'appel est composé que de juristes, donc des gens qui n'y connaissent rien en hormones de croissance et en bovins. L'organe d'appel est juste là pour vérifier si les experts, le groupe spécial dont je parlais tout à l'heure, cette panel d'experts, a bien respecté le droit de l'OMC. Est-ce que d'abord le différend rentre bien dans le cadre de l'OMC ? Est-ce qu'on a respecté le droit de la défense ? Etc. etc. Et si l'organe d'appel estime qu'au niveau du droit pur, tout a été respecté, eh bien l'organe d'appel rejette l'appel. C'est ce qui s'est passé. L'Union européenne a donc perdu en appel. Et là, qu'est-ce qui va se passer après ? Et vous voyez, ça va être très différent, vous allez le voir, d'un procès ordinaire dans un État quelconque. Car vous savez ce qui se passe dans un État, quand on a gagné un procès, eh bien, on remet le jugement ou l'arrêt à un huissier qui va aller chez vous saisir vos biens, meubles, immeubles, les faire vendre, et puis à hauteur de ce que vous me devez, eh bien, je serai payé par voie de droit. Or là, ça ne se passe pas du tout comme ça, car les plaideurs sont des États souverains. Alors, voici comment ça se passe. Ceux qui ont gagné, donc ici, États-Unis et Canada, eh bien, proposent une sanction financière contre l'État qui a perdu, ici l'Union européenne. Alors, ils proposent des sommes énormes, ça se chiffre par millions de dollars. Alors, ça, c'est les pays qui ont gagné, qui proposent une sanction financière à l'égard du pays qui a perdu, mais ce n'est pas eux qui, finalement, disent quelle sera la somme. il faut que les États qui ont gagné, qui proposent cette indemnisation, cette sanction financière, s'adressent à l'ORD, l'organe de règlement des différends qui est à Genève. L'ORD, c'est l'organe qui va dire en finale, eh bien, l'Union européenne est condamnée à temps puisqu'elle ne veut toujours pas abaisser sa barrière. Car l'Union européenne n'a jamais abaissé sa barrière en matière de bœuf aux hormones. Et l'ORD a dit que les États-Unis avaient le droit à 116 millions de dollars américains et que le Canada avait le droit à 13 600 000 dollars canadiens. Alors vous pourriez croire qu'à ce stade, que l'Union européenne prélève ces millions de dollars dans son budget, puisque l'Union européenne a un budget, et qu'elle verse 116 millions de dollars aux États-Unis et tant au Canada. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Une fois que l'ORD a dit aux États-Unis, vous avez le droit à tant de millions, au Canada, vous avez le droit à tant de millions, les pays qui ont gagné dressent une liste qu'on appelle la liste noire. Ça veut dire que les pays désignent des produits qui sont en rapport avec le différend. Comme le différend porté sur l'alimentaire, et non pas de l'informatique, la liste noire se composait de produits alimentaires. Ce qui veut dire que les États-Unis et le Canada ont dressé une liste de produits alimentaires que chaque pays de l'Union européenne exporte vers les États-Unis, exporte vers le Canada. Pour la France, par exemple, les États-Unis et le Canada avaient mis les truffes, les biscottes, les échalotes, le foie gras et d'autres choses semblables. Et alors, ça veut dire quoi maintenant ? Et le Roquefort, j'avais oublié Roquefort. Ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes producteur de Roquefort, donc français et en France, et que vous voulez exporter votre Roquefort vers les États-Unis ou le Canada, eh bien, à la douane là-bas, quand ça arrive, eh bien, il y a une surtaxe. Autrement dit, voyez-vous, c'est par un droit de douane additionnel que les Américains vont toucher leurs 116 millions de dollars, etc. Ce qui veut dire, c'est intéressant de remarquer, qui c'est qui paye les pots cassés finalement ? Ce n'est pas du tout l'Union européenne, ce n'est pas non plus les États qui prennent leur patrimoine. Ce sont les producteurs ici de Roquefort, là d'échalotes, là ceux qui fabriquent les biscottes et qui exportent vers les États-Unis ou le Canada, qui ont gagné, qui vont se retrouver avec des produits surtaxés. Donc ils vont vendre moins forcément, puisque la ménagère américaine ou canadienne, elle voit bien que ces produits-là ont augmenté terriblement. Donc voyez-vous, ça veut dire que c'était le prix à payer pour que nous, Européens, eh bien, nous ne mangions pas du bœuf aux hormones. Voilà donc, voyez-vous, comment ces organes, qui sont des espèces de juridictions internationales, rendent la justice lorsque, au niveau mondial, il y a des différences si importantes, car ça porte sur des quantités énormes. Il y a un enjeu économique terrible. Et c'est ce prix-là qu'on a dû payer, ce qui veut dire que les producteurs en Allemagne, en France, etc., qui ont été visés à la liste noire pendant des années, eh bien, ils ont eu des produits surtaxés et ils ont été, bien sûr, pénalisés, ça va de soi, du fait de ces surtaxes. Alors, normalement, on devrait encore être en train de payer, si je peux dire. L'exportateur de Roquefort devrait, à l'heure où je parle, encore être payé. Or, les États, vous le savez, sont souverains et ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre un terme à l'exécution de la peine. Et c'est ce qui s'est passé en 2012. L'Union européenne a parlementé avec le Canada et les États-Unis. Et en 2012, ils se sont mis d'accord pour que les États-Unis et le Canada cessent de réclamer les pénalités financières. Donc n'imposent plus par droit additionnel le Roquefort, etc., qui arrive aux États-Unis et au Canada. Et l'accord conclut quoi ? Il conclut que donc on arrête les pénalités financières, les exportations se feront droit de douane habituel avant le litige en quelque sorte, mais en échange l'Union européenne s'engage à recevoir de la viande américaine et canadienne de qualité. Point final, c'est ce qu'on appelle le langage diplomatique. Ce qui fait que, voyez-vous, voilà comment finalement en 2012 l'affaire s'est arrêtée, car autrement on serait encore en train de payer. Donc voyez-vous, on voit très bien, car ça n'apparaît pas au commun des mortels, comment le steak qu'on va me servir, n'est-ce pas, peut avoir un lien avec des règles mondiales et des conflits entre grands États puissants et qui sont réglés par des juridictions très particulières. Et puis je vous avais promis une deuxième chose au niveau mondial qui était le Codex Alimentarius. Alors ça, c'est moins connu du grand public, le Codex Alimentarius, et pourtant, c'est très important. Il y a 185 pays du monde, plus l'Union européenne, qui participent à faire les normes, c'est-à-dire les règles, au Codex Alimentarius. Alors ce Codex Alimentarius, ça veut dire code alimentaire, évidemment, on appelle Codex souvent pour aller plus vite, il est sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, et de la FAO, dont le siège social est en Italie. La FAO s'occupe d'agriculture et de la faim. Donc, ces grandes institutions internationales, l'OMS et la FAO, chapeautent ce Codex Alimentarius, car il faut financer, il faut des sous, et puis il faut organiser. Et alors, voici en gros comment ça marche, et à quoi ça sert. un des organes essentiels du Codex Alimentarius, c'est la Commission internationale. C'est elle qui va sortir la norme Codex quand enfin elle est prête. Ça demande entre 8 à 10 ans, voire 15 ans pour en faire une. Donc quand on vous apprend qu'aujourd'hui on commence les négociations pour une norme Codex, par exemple sur le Roquefort, alors là vous avez le temps, hein, ça va sortir dans une bonne dizaine d'années, si elle sort. Parce que des fois, ça ne sort jamais, ça va dans les cartons. Alors, la Commission internationale, c'est elle qui finalement, après, quand ce sera fini, sortira la norme. Mais elle est aidée par des comités. Il y a des comités horizontaux. Ça veut dire qu'ils travaillent sur des thèmes comme l'étiquetage, donc l'étiquetage pour tous les produits, ou bien les additifs, additifs pour tous les produits. Et puis, il y a des comités qu'on appelle verticaux. Ils travaillent sur des groupes de produits, par exemple les huiles, les sucres. Et certains groupes verticaux travaillent sur un produit donné, un fromage par exemple, ou une sauce. Et alors, qui sont dans ces comités qui travaillent, soit de manière horizontale, soit à la verticale? Eh bien, des représentants des États membres. Et n'oublions pas qu'il y a presque 190 États du monde, encore plus qu'à l'OMC. Alors bien sûr, il y a des États qui n'ont pas les moyens, qui ne viennent pas beaucoup, même jamais. Puis il y a des États qui n'ont pas trop de culture alimentaire, donc ils viennent comme ça, pour voir, on pourrait dire. Et puis il y a des États, notamment une bande d'anglo-saxons, qui un peu dominent là-dedans, qui jouent un grand rôle. Et les Américains, évidemment, avec leur puissance, vous le devinez. Mais il y a aussi la France, avec l'Italie, qui sont deux pays souvent liés ensemble, parce que c'est des traditions de haute qualité alimentaire. Parce que, quel est l'enjeu là-dedans? Il va s'agir de faire une norme alimentaire. Par exemple, sur un produit donné, si on prend un exemple de norme verticale. Ça veut dire qu'on décide qu'on va faire une recette soit qui va être mondiale, soit qui va être régionale. Car le Codex Alimentarius, il fait des normes soit pour tous les pays, membres du Codex, soit pour des régions, par exemple toute l'Amérique latine, ou toute l'Afrique subsaharienne, ou toute l'Europe. Bon, donc, normes mondiales ou normes régionales. Mais grandes régions, hein, pas les petites régions comme en France. Alors, il s'agit de trouver une recette pour un produit donné. Alors, je vais vous prendre un exemple réel, car je prends des exemples réels, hein, on gagnera du temps. C'est pas peine de revenir après vers dire, ça c'est un exemple réel. Bon, il y a une norme Codex Alimentarius Camembert. C'est un honneur pour la France, quand même. Le camembert a été inventé par Marie Harel en 1791, n'est-ce pas? En pleine révolution, il faut le faire, quand même. Hein. Bon, on est fiers du camembert, c'est un mythe national. Hein, vous le savez bien. Bon. Alors, il y a une norme Codex Alimentarius Camembert. Elle fait à peu près, disons, 4 pages à lire. Alors, on vous explique comme une recette. Hein, c'est comme une recette, le camembert se fait comme ceci, comme cela. Il y a une croûte, il y a une croûte fleurie, patati patala. Et puis, à un moment donné, et nous, évidemment, ça nous remarque, ça nous choque tout de suite. À un moment donné, il y a le lait, forcément, dans la recette, quel lait? Alors, il est indiqué dans la norme Codex, il peut s'agir du lait. Parce que si on dit lait tout court, en droit alimentaire, c'est lait de vache. Si vous voulez que ce soit du lait d'autre chose, il faut le dire. C'est comme œuf. Si vous dites œuf, c'est forcément œuf de poule. Vous êtes au restaurant, vous demandez un œuf brouillé, c'est forcément œuf de poule. Hein. Si le restaurateur vous livre un œuf de canard, il y a tromperie. 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende. On met rarement en prison et 300 000 euros d'amende pour un œuf. Mais tout de même, hein, vous l'ennuyez, hein, le pauvre restaurateur. Bon, œuf, c'est forcément. Voilà. Alors donc, vous lisez le codex, la norme Codex Alimentarius Camembert. Alors vous avez, le camembert se fait. Soit au lait de vache, ce qui ne nous étonne pas à nous, évidemment, hein, puisque chez nous, ça se fait comme ça, soit au lait de bufflonne, ou un mélange de lait de vache et de lait de bufflonne. Ce qui est très curieux pour des Français, et si vous demandez à un Normand qu'est-ce qu'il en pense, alors là, il vous dira que c'est incroyable. Alors, comment on arrive à de telles choses? On arrive à telles choses parce que les pays qui font ces normes, leurs représentants, il faut bien comprendre qu'il y a tout qui est là. Vous avez des gens qui ont des traditions gastronomiques, puis il y a des gens qui représentent des pays qui n'ont pas de tradition gastronomique. Et il faut, car on est très nombreux à faire les normes, il faut qu'on arrive à s'entendre sur un minimum. Autrement, si chacun reste sur ses positions, en disant « moi, je suis un pays de haute gastronomie, les produits chez nous, c'est de haute qualité, donc il n'est pas question de faire un camembert avec du lait de bufflonne, c'est une hérésie, ça mérite la peine de mort devant un train de gastronome, ça ne peut être que du lait de vache. » Si vous maintenez votre position, vous ne sortirez jamais de normes mondiales ou régionales, puisque d'autres États entendent les choses autrement. Tout le monde n'a pas nos papilles, chacun les papilles de son pays. Donc il faut, après des années, souvent c'est 8-10 ans, qu'on finisse par consensus, ça s'appelle, trouver une recette commune. Si vous voulez, c'est comme si je disais, on se met à deux, et puis on décide de faire une recette sur ce que vous voulez. À deux, on en a peut-être pour une heure, on va se mettre d'accord. On va discuter un peu, mais en une heure, on n'a pas que les... Si on est trois, on ne va jamais être plus de temps. Et si maintenant, on était 15, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, à mon avis, on dort ici ce soir. Mais si on est 186 États membres, plus l'Europe des 28, vous imaginez le nombre d'années qu'il faut pour se mettre d'accord sur une recette. Et c'est ce qui se passe, justement, dans les comités Codex Alimentarius. Et alors, quand, enfin, la recette a le consensus, eh bien, la Commission internationale sort et ça fait une nouvelle norme mondiale qui, ici, eh bien, est la recette du camembert. Vous avez à peu près comme ça quelques 400 et quelques recettes. Vous avez la recette sur le corned beef, etc., etc. La recette sur l'emmental, notre fromage que tout le monde connaît ici. Alors, vous pourriez dire, ouais, bon, d'accord, j'ai compris le truc, mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon assiette de ce soir ? Eh bien, c'est là que vous allez voir. Jusqu'en 1994, ça veut dire jusqu'à temps que l'OMC ne s'est pas développée, l'OMC dont je viens de parler. Les normes Codex Alimentarius avaient une valeur juridique faible. Autrement dit, on disait que les États ne sont pas obligés, lorsqu'ils légifèrent en matière alimentaire, de suivre les normes Codex Alimentarius. Et les entreprises implantées dans les États, lorsqu'elles fabriquent un produit, ne sont pas obligés de suivre les normes Codex Alimentarius. Donc, jusqu'en 1994, avant que l'OMC se développe, on disait que les normes Codex Alimentarius avaient une valeur juridique faible. Autrement dit, il y a une recette Codex Alimentarius, bon, je m'en fous, nous on fait autrement en France. Et puis, on avait raison, on ne pouvait rien nous dire. Sauf que, regardez bien, depuis que l'OMC s'est développée en 1994, il y a une nouvelle règle qui s'est établie au sein de l'OMC et qui consiste à dire ceci. Quand il y a un différend entre des États, si l'État à qui on reproche quelque chose a dans son droit interne une définition de l'aliment, une recette de la composition de l'aliment qui est conforme à une norme Codex Alimentarius, alors il y a une présomption que cet État a raison. Et si donc il a dressé une barrière, eh bien a priori c'est lui qui devrait gagner. Autrement dit, la règle qui s'est développée est la suivante. Si un État a légiféré, on va dire la France avec son droit franco-français, pour un produit donné, et la France, on suppose, a respecté dans les grandes lignes la norme Codex Alimentarius, alors il y a une présomption de conformité que la règle alimentaire française est bonne. Et donc, la France, elle a mis une barrière, par exemple, pour empêcher qu'un autre État livre un produit légèrement différent, parce qu'il n'a pas, lui, suivi les règles Codex Alimentarius, eh bien, c'est lui qui va avoir tort. Ce qui fait que, voyez-vous, c'est très important, parce que désormais, quand au sein de l'OMC, il y a des différends, les États vont essayer de démontrer que, dans leur position, notre droit à nous, eh bien, il embrasse, il suit, il s'adosse à une recette Codex Alimentarius. Et en conséquence, c'est nous qui devrions l'emporter dans le cadre du différend. Et... je vais vous montrer un exemple extrêmement concret maintenant appliqué à cela, parce que ça reste un peu fumeux pour ceux qui ne sont pas de la partie quand même. Regardez bien, je vais prendre l'affaire de l'emmental. Tout le monde connaît l'emmental, on le met à toutes les sauces, hein, en salade, etc. Bon, regardez bien. La France, qui est un pays de tradition de fromage, avait un décret. Décret, ça veut dire ici pris par le Premier ministre, car on estime qu'en matière de fromage, dans certains fromages AOC notamment, ça relève de la compétence du Premier ministre. Rien que ça. C'est normal, c'est important. Alors, donc, je disais donc, on avait un décret pris par le Premier ministre, un décret emmental. Quand vous le lisiez, il y en avait à peu près pour 3 pages, on vous explique, comme dans un livre de cuisine, le décret vous explique comment on fait un emmental, patati patala. Et bien sûr, il est dit dans le décret franco-français que l'emmental a une croûte. Et on vous explique comment on se fait la croûte, etc. Le décret est un véritable livre de cuisine sur ce plat-là. Très bien. Donc, pour nous, il n'y a d'emmental qu'avec croûte. Très bien. Sauf que, regardez bien, il y a une norme Codex Alimentarius, également, je vous ai dit, sur l'emmental. Si vous la lisez, ça vous donne qu'à un moment donné, on vous dit, on peut faire de l'emmental avec croûte, ce qui ne nous étonne pas, mais la norme Codex Alimentarius dit également qu'on peut faire de l'emmental sans croûte. Un emmental sans croûte n'est pas un emmental à qui on a retiré la croûte. C'est un emmental qui n'a jamais eu de croûte. Alors, comment on fait ? Parce que pour qu'il y ait la croûte, chacun sait comment on fait. Une fois que le fromager a fait son emmental, eh bien, on va aller le mettre à sécher, on le met en cave, et puis il va affiner, et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, la croûte va bien se former, et voilà. Donc, il y a un coût. puisqu'il faut payer souvent eh bien, l'affineur. Et puis le fromage va perdre du poids, de l'eau, puisqu'on le met à sécher. Donc on va perdre deux fois, une fois parce qu'il va perdre du poids, l'eau, et puis deux, parce qu'il va falloir payer l'affineur, sa cave, etc. Si vous faites de l'emmental sans croûte, c'est beaucoup plus simple. Une fois que le fromage est fait, on le glisse dans une énorme poche plastique. Car l'emmental, c'est assez gros, hein, c'est comme pas un camembert. Et on ferme la poche plastique. Et l'emmental reste là-dedans. D'où il ne perd pas d'eau. Donc, il sera plus intéressant à la vente. Et puis, surtout, il n'y a pas à le mettre dans une cave affinée, puisqu'il n'aura pas de croûte, il n'y en a pas besoin, puisqu'on le met sous poche. Donc, cet emmental, il sort, il sera vendu. Comme ça, jamais il n'aura eu de croûte. Donc, la norme Codex Alimentarius prévoit deux types d'emmental. Avec ou sans croûte. Tant qu'on disait que les normes codex avaient une valeur juridique faible, on s'en fichait qu'il y ait une norme codex alimentarius elemental avec sans croûte, puisqu'on appliquait le droit franco-français, on était chez nous. Or, depuis cette nouvelle règle que je viens de vous expliquer, qui est née quand l'OMC s'est développée en 1994, eh bien, les normes codex peuvent être appliquées et peuvent aller jusqu'à faire condamner une législation nationale. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez bien, nous sommes en France, dans le sud, un industriel français fabrique de l'emmental et il sort directement de l'emmental sans croûte, autrement dit sans affinage, directement sous poche plastique. Passe par là la DGCRF qui fait un contrôle. La DGCRF, c'est le service des fraudes, c'est la police alimentaire. Bon, on est un rare pays à avoir une police comme ça. Alors donc je disais, comme d'autres ont la police des mœurs ou qu'on l'a eu à un moment donné. Bon, la DGCRF passe, constate que vous faites de l'emmental sans croûte. Or, le décret français impose une croûte, donc on verbalise. C'est une tromperie, il y a donc prison amende à la clé, et le procureur de la République poursuit dans le tribunal correctionnel ce producteur qui fait des mentales sans croûte, contrairement au décret français. Et alors, l'affaire est jugée au tribunal correctionnel, et puis ça soulève un problème, et l'affaire atterrit devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, elle siège à Luxembourg. C'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Et figurez-vous que la Cour de justice de l'Union européenne, elle dit ceci. Il y a une norme internationale, Codex Alimentarius, sur l'emmental, qui prévoit qu'on peut légalement donc, fabriquer de l'emmental sans croûte. La France a un décret qui impose forcément l'emmental qu'avec croûte. La législation française, dit la Cour de justice de l'Union européenne, n'est pas conforme à la règle Codex Alimentarius. Donc, nous ne pouvons pas condamner, on ne peut pas condamner cet industriel qui n'a pas respecté la règle franco-française et qui a donc appliqué la règle du Codex Alimentarius. D'où la France ayant perdu, elle a été obligée de prendre un deuxième décret pour abroger le premier. Et le décret actuellement qui nous parle, il dit « Désormais en France, on peut fabriquer deux sortes d'emmental. Il y a l'emmental avec croûte qui a le droit à l'appellation « tradition ». Donc, si je fais de l'emmental avec croûte, je peux mettre « tradition » sur le paquet. Et puis, dit le décret, il y a désormais l'emmental sans croûte. Donc, voyez-vous, voilà comment on arrive au pays du fromage eh bien, à avoir de l'emmental eh bien, qui n'a jamais eu de croûte et qui n'en aura donc jamais. Or, pour des gastronomes, la croûte joue un rôle essentiel dans les fromages. Je ne veux pas vous faire un cours sur les fromages et le rôle de la croûte, au point que certains mangent la croûte. Alors la question de savoir s'il faut manger la croûte d'abord ou le fromage après, ou s'il faut manger les deux en même temps, bon, il y a plusieurs versions, mais ce n'est pas notre sujet. Donc je disais que ça nous a donc obligés, voyez-vous, à nous aligner sur une norme ici mondiale. Et ça vous montre donc l'imbrication, les effets de ces normes mondiales sur ce que nous mangeons réellement. Car si vous regardez bien, bien souvent, vous servira pour pas cher, évidemment, de l'emmental sans croûte. Et c'est une des conséquences de ces règles mondiales et de cette jurisprudence communautaire. Alors si maintenant je regarde la table de l'Europe, pour ne pas vous ayez une indigestion quand même sur le droit alimentaire, donc j'avance un petit peu, à la table de l'Europe. Alors, je le disais tout à l'heure, dans une assiette, quel que soit son contenu, il y a à peu près un bon 80%, si ce n'est pas 80%, 85% de droit communautaire. Alors en gros, qui c'est qui fait ce droit communautaire? Bon, on ne va pas faire un cours de droit communautaire, ce n'est pas le but, mais en gros, pour comprendre, vous savez qu'il y a la commission de Bruxelles. Avec les 28 commissaires qui sont des espèces de penseurs de Rodin, car toute la journée, ils réfléchissent qu'est-ce qu'on pourrait bien proposer comme réforme pour améliorer le sort des artisans, améliorer le sort des agriculteurs, améliorer la protection des consommateurs, etc., etc. Donc, c'est la commission de Bruxelles qui a le monopole de proposer des réformes en droit communautaire. Donc, c'est elle qui a les idées et qui propose donc des réformes. Et donc, en matière alimentaire, elle en a. Une fois qu'elle a son projet de réforme, disons pour simplifier et pour faire au plus vite, son projet de réforme, car ce n'est pas elle qui a le pouvoir législatif, va à l'Assemblée de Strasbourg, autrement dit le Parlement de Strasbourg, là où sont les eurodéputés. Alors les eurodéputés, c'est un peu complexe parce que tantôt, ils se prononcent que par un simple avis. Alors ils sont un peu frustrés, on le devine, parce que quand vous êtes député et qu'on vous demande que votre avis... Et puis d'autres fois, à l'opposé, à l'extrême, ils doivent vraiment voter, comme le font nos députés en France lorsqu'ils votent une loi. On ne leur demande pas un avis en France, ils votent vraiment, ou ils ne votent pas, mais ils ont le pouvoir de voter. Donc, si on prend les deux extrêmes, tantôt les eurodéputés émettent un avis sur le projet de la Commission qui veut faire je ne sais quoi en matière alimentaire, tantôt, au contraire, à l'extrême, il faut qu'ils votent. Alors, supposons que c'était un cas où ils devaient voter, alors ils ont voté, la majorité requise, très bien. Mais ce n'est pas encore fait. Il faut maintenant que le texte aille au Conseil des ministres, Conseil de l'Union européenne, qui normalement se réunit à Bruxelles. Alors, les ministres du Conseil des ministres de Bruxelles ne sont pas des ministres communautaires. Ce sont des ministres nationaux qui se rencontrent autour d'une table et qui changent en fonction de l'ordre du jour. Par exemple, si j'apprends en rentrant ce soir que le Conseil des ministres de Bruxelles s'est réuni pour discuter d'une histoire de vache folle, eh bien, ça veut dire que le ministre, M. Le Foll, ce matin, notre ministre de l'Agriculture, a pris l'avion et il a été avec 27 autres ministres de l'Agriculture, polonais, portugais, etc., autour d'une table pour discuter de l'histoire de la vache folle et qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on les tue, etc. etc. Donc, voyez-vous, voilà comment ça fonctionne. Et alors, le Conseil des ministres, c'est lui qui a une majorité requise, qualifiée parfois, doit dire si finalement le projet de la Commission, qui on suppose a été voté par les députés, les eurodéputés, est-ce que ça va devenir un règlement communautaire, est-ce que ça va devenir une directive communautaire, ou bien trop coûteux ou impopulaire, dans les cartons, et puis ça va s'arrêter là, à moins que la Commission présente un nouveau projet amendé, etc. Alors, ce qui veut dire que la plupart des règles du droit communautaire, en matière alimentaire, découle de ce qu'on appelle les règlements et les directives communautaires. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon le droit dérivé, parce que ça dérive des traités de l'Union européenne. Bon, très bien. Donc la plupart des textes de droit qui réglementent les aliments aujourd'hui sont des textes communautaires, et ces textes s'appellent, non pas des lois, car il n'y a pas de loi vraiment, stricto sensu, s'appellent soit des règlements communautaires, on dit règlement tout court, soit des directives. La différence, pour ceux qui veulent la connaître, entre règlement et directive, car ce n'est pas la même chose, et c'est important pour notre sujet, quand il y a un règlement communautaire, par exemple, vous avez un règlement communautaire sur les boîtes de sardines, ça fait quelque chose comme 20 pages à lire. C'est une recette gigantesque sur comment on doit faire les boîtes de conserve de sardines dans l'Union européenne. Et on vous parle des boîtes, grandeur des boîtes, les matériaux qui doivent servir à faire les boîtes. On vous parle bien sûr de ce qu'il doit y avoir dedans. Autrement dit, les sardines, on vous parle également de l'accompagnement, huile ou pas huile, etc., etc. Et on apprend d'ailleurs des choses intéressantes. On y apprend que les sardines, on n'a pas le droit de les serrer dans la boîte. Ce qui fait mentir le proverbe qu'on est serré comme des sardines, par exemple, les jours de grève dans le métro. Car justement, la législation communautaire, le règlement communautaire, interdit qu'on serre les sardines. Elles doivent pouvoir se détacher les unes des autres facilement. Intéressant. Bon, alors, ça, c'est un règlement communautaire. Alors, vous voyez dire, ouais, alors, quel est son impact ? Quand il y a un règlement communautaire en matière alimentaire, et il y en a un paquet, eh bien, ce règlement, une fois qu'il est publié au journal officiel de l'Union européenne, il va rentrer en vigueur dans les 28 États membres, et il détruit toutes les législations nationales qui traitent du même sujet. Donc, quand ce règlement communautaire sur les sardines est rentré en application, si l'Espagne avait déjà du droit national sur les boîtes de sardines, et la France en avait évidemment aussi, tout ça est détruit. Les règlements communautaires, par un effet direct, rentrent en application directement, s'imposent aux États et s'imposent aux entreprises qui sont du secteur, et ce jusqu'aux consommateurs. Et interdiction aux États de faire de la législation qui suspendrait ou bloquerait l'application du règlement communautaire. Un règlement communautaire, c'est donc extrêmement important et ça uniformise entièrement. Les boîtes de sardines sont donc toutes les mêmes dans les 28 États membres. L'avantage, c'est que si je vais acheter une boîte de sardines en Pologne et que je ne sais pas lire le polonais, eh bien normalement, s'il n'y a pas fraude, je vais avoir la même chose que si je l'avais acheté en France puisque les règles sont forcément les mêmes. Ça, c'est quand c'est un règlement. Et puis, il y a les directives, j'ai dit. Donc les directives, c'est pareil. La commission a une idée, puis ça passe l'eurodéputé, puis le conseil des ministres, et ce qui sort, c'est une directive. La directive, elle ne s'adresse pas directement aux consommateurs, aux industriels. Non, la directive, elle est adressée aux dirigeants des pays. Et elle dit au gouvernement des pays, vous avez jusqu'à telle date. En général, on leur laisse un an, deux ans, trois ans. Par exemple, vous avez jusqu'au 1er janvier 2018 pour modifier votre droit national concernant tel aliment, par exemple, on va dire le miel, à propos de telle chose concernant le miel. Donc, les États savent qu'il faudra qu'avant le 1er janvier 2018, ils modifient chacun leur législation nationale, donc les Espagnols par ordonnance royale peut-être, la France par une loi votée par des députés sénateurs, donc chacun fait comme il veut après, il a la liberté des moyens, mais il faudra qu'à la date butoir indiquée, chaque pays ait modifié son droit national dans le sens imposé par la directive. Car si jamais un État ne le faisait pas, la Commission de Bruxelles, qui est une sorte de vautour qui plane sur l'Europe des 28, piquerait sur l'État et le poursuivrait en recours en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne et l'État serait financièrement condamné. C'est dire que c'est le contribuable qui paierait, vous imaginez. Alors, voilà en gros comment les choses se présentent ici. Pour vous montrer, alors les directives, vous avez une directive sur le miel, directive sur cacao-chocolat, qui a été une directive qui a été 30 ans, on a mis 30 ans pour la refaire. C'est la fameuse directive, vous savez, qui parle des 5% de graisse végétale haute que le beurre de cacao. Ça fait une guerre entre les pays du Sud, France, Italie, l'Espagne qui nous a lâchés au dernier moment, et puis les pays anglo-saxons là-bas au Nord. Et comme ils sont devenus plus nombreux, on a perdu, évidemment, parce que c'est démocratique aussi l'Union européenne, et on a perdu, et donc on se retrouve avec la possibilité de mettre ces graisses végétales hautes que le beurre de cacao à hauteur de 5%. C'est pas n'importe quelle graisse, faut pas exagérer, mais tout de même, c'est plus le beurre de cacao. Il y a une directive très importante sur les confitures, sur la crème de marron, sur les gelées, etc. Quand vous lisez la directive, c'est un livre de cuisine. On vous donne le poids du sucre, on vous donne le poids selon le type de fruit. Car vous pensez bien que selon que le fruit est très acide ou pas acide, le poids est... Autrement dit, voyez-vous, la commission qui prépare tout ça dans ses projets, eh bien, elle se met en cuisine, en quelque sorte, elle passe le tablier. Quand vous lisez ça, vous dites, mais c'est du droit. On a l'impression qu'on est à l'œuvre ouverte sur un bouquin de cuisine, c'est comme ça. Alors, ces directives, après, elles sont transposées forcément. Et elles jouent un très grand rôle parce que c'est elles qui vont s'appliquer et donc supprimer notre droit franco-français. Et je vais prendre un exemple pour vous montrer que ce n'est pas que du droit comme ça, c'est de la réalité par rapport à ce que nous mangeons. Regardez, vous avez... tout le monde connaît, par exemple, la sauce béarnaise et la sauce hollandaise, qui sont deux sauces françaises. La béarnaise, elle a été inventée, vous le savez, par le chef qui s'appelait Collinet à Saint-Germain-en-Laye, au pavillon Henri IV, de là le nom pour, en hommage à Henri IV, car ce n'est pas du tout une sauce de là-bas, elle est bien de la région parisienne. La hollandaise, elle n'est pas hollandaise, c'est un hommage qu'on a voulu rendre aux Hollandais par leur qualité du lait, donc c'est deux sauces franco-françaises. La particularité de ces deux sauces, vous le savez, c'est qu'elles se montent à la graisse animale. Autrement dit, à un moment donné, il va falloir mettre du beurre fondu là-dedans, et c'est très difficile à faire, c'est pas rien que de réussir une béarnaise ou une sauce hollandaise. Donc, forcément, graisse animale. Et qu'est-ce que dit le droit communautaire là-dessus ? Il dit à propos d'un grand arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège toujours à Luxembourg depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé, eh bien, la Cour dit que on peut très bien monter une sauce béarnaise avec des graisses végétales, traduisées pour aller plus vite, genre margarine. Donc, il n'y a pas de graisse animale. Ce n'est pas d'importance pour le consommateur, du moment que dans la liste d'ingrédients ne figure pas beurre, évidemment, mais par exemple margarine. Autrement dit, à l'Union européenne, ils ont une vue, évidemment, un petit peu laxiste de nos sauces, car la sauce béarnaise et la sauce hollandaise sont deux sauces phares de notre patrimoine national. Ce qui veut dire que on nous dit que la sauce garde son nom de sauce béarnaise, c'est ça qu'il faut voir. Elle garde son nom de sauce hollandaise, bien qu'il n'y ait plus de graisse du tout animale dedans, mais à la place de la graisse végétale. Alors bien sûr, il faut l'indiquer dans la liste des ingrédients, ça va de soi, mais c'est quand même pas normal. Il faudrait mettre, selon nos traditions, par exemple, sauce façon hollandaise, ou mode hollandaise, à la manière sauce hollandaise, car le beurre fait partie des ingrédients essentiels dans une sauce béarnaise. C'est que, voyez-vous, ce qui se décide également là-bas, ça représente un reflet. Or, l'Union européenne, ce n'est pas que la France et l'Italie, ça représente d'autres pays qui n'ont pas les mêmes traditions gastronomiques, d'où on arrive parfois à une espèce de nivellement par le bas qui nous étonne, n'est-ce pas, toujours. Et des fois, tout de même, il faut le reconnaître, le droit européen apporte quelques progrès. Je vais donner un dernier exemple avant de passer à table de France. On va prendre l'exemple du veau, tout le monde pourra comprendre. Il y a un principe en droit communautaire qui est le principe de subsidiarité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 28 pays membres. Chacun a le droit de légiférer quand ce n'est pas du monopole de l'Union européenne. Car si la question sur laquelle il faut légiférer, c'est monopole Union européenne, il n'est pas question de laisser les États légiférer. Tout le monde comprend. Donc, en matière alimentaire, il y a le principe donc, qu'il y a des domaines où les États peuvent légiférer. Chacun à sa manière. Espagnol, allemand. Et si les États n'ont pas légiféré, l'Union européenne peut légiférer. Prendre leur place, en quelque sorte. Du genre, vous n'avez rien fait, donc on va le faire. Ou alors, regardez bien, si les pays ont légiféré, mais que l'Union européenne estime qu'ils ont mal légiféré, que c'est le foutoir, alors l'Union européenne a le droit de dire, eh bien, ce que vous avez fait, c'est très bordélique, je substitue un règlement communautaire, je détruis vos droits nationaux, et c'est ma règle qui va s'imposer. C'est ce qui s'est fait pour le veau. Car regardez bien, avant que l'Union européenne fasse jouer ce principe, écrase les droits nationaux, c'est les États nationaux qui avaient légiféré sur le veau. Nous, la France, pays de bonne gastronomie et de produits de qualité, on avait fixé la date de 6 mois. Nous avions donc un décret français qui décrétait, c'est le moment de le dire, que l'animal devait être abattu avant 6 mois. Après, il ne pouvait plus s'appeler veau et viande de veau. Il fallait dire jeune bovin. Mais d'autres pays, car vérité d'un côté des Pyrénées et au-delà, des pays comme l'Espagne avaient fixé la barre à 12 mois. D'autres pays dans le Nord à 8 mois. Ce qui veut dire quoi ? Un éleveur espagnol, il élève une bête jusqu'à 12 mois, il l'abat juste à 12 mois et il peut l'appeler veau. Et donc vous vendre une escalope de veau. Alors que l'éleveur français, lui, s'il abattait sa bête à 12 mois, il ne pourrait pas l'appeler veau, il pourrait vendre simplement escalope de jeune bovin. Ce n'est pas le même prix. Chacun sait que les escalopes de veau, le foie de veau, sont beaucoup plus chers, n'est-ce pas, à l'étal que, évidemment, du jeune bovin. Hein, très bien. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi ? La ménagère, quand elle pousse son caddie dans l'autoroute Leclerc et qu'elle voit escalope de veau moitié moins cher par rapport à l'autre, parce que c'est ça que ça veut dire. L'Espagnol va vendre forcément moins cher, dans mon exemple. Eh bien, elle va prendre la moins chère. Et donc, ça veut dire que c'est l'Espagnol qui va vendre en France sa viande de veau et le Français ne vendra pas la sienne. Il est pénalisé. Et là, vous me direz, ouais, mais l'Espagnol a le droit de venir vendre comme ça. Oui, il a le droit de venir vendre depuis le grand arrêt Cassis de Dijon. Tiens, tenez, si on vous demande un jour dans un jeu radiophonique quel est le plus grand arrêt rendu dans le cadre du droit alimentaire dans l'Union européenne, c'est l'arrêt Cassis de Dijon. Cet arrêt dit ceci. Quand un produit est fabriqué légalement dans un pays de l'Union européenne, donc un produit est fabriqué légalement selon la législation, par exemple, française. C'était le cas pour le Cassis de Dijon, car Dijon est en France. On peut le commercialiser librement dans les 27 autres pays, même si la législation des autres pays est différente. Ça veut dire que, depuis l'arrêt Cassis de Dijon, un État membre ne peut pas dire « Chez nous, la règle est plus sévère pour faire cet aliment. Vous, votre aliment ne correspond pas à nos normes, donc vous ne pourrez pas le commercialiser chez nous. » Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'affaire Cassis de Dijon ? À Dijon, on fait du Cassis de Dijon. Il titre dans l'espèce qui a fait l'objet du jugement, 17 degrés. Ce n'est pas énorme, on peut en boire. Enfin, il ne faut pas exagérer. Enfin, bon, 17 degrés, ce n'est pas 40 degrés. Et le producteur entendait exporter son cassis de Dijon à 17 degrés en Allemagne. Or, en Allemagne, on fabrique aussi le cassis de Dijon. Hein, vous voyez un peu le protectionnisme aussi qu'on veut faire. Mais en Allemagne, le cassis de Dijon titrait 22 degrés, donc plus fort. Donc, si un Allemand en Allemagne fabriquait du cassis de Dijon, il fallait qu'il titre 22 degrés. Et alors, l'Allemagne interdit à cet exportateur français d'exporter son cassis de Dijon qui fait 17 degrés en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il doit faire 22. Car les Allemands, soutenez que les consommateurs allemands étant habitués à un cassis de Dijon élevé en alcool, ils seraient en quelque sorte trompés en ayant un cassis de Dijon moins fort en alcool. Donc, c'était le motif indiqué. Et dans ce grand arrêt cassis de Dijon, la Cour de justice de l'Union européenne, qui pour une fois a rendu un arrêt favorable à la France et qui peut se comprendre, elle a dit, eh bien, on pose ce grand principe. Quand un produit est fabriqué légalement dans un État membre, et le cassis de Dijon à 17 degrés, c'est légal en France, il est commercialisable dans les 27 autres pays, même si dans les autres pays, la législation n'est pas la même. Bon, alors je sais ça pourquoi. Tout ça pour dire que l'Espagnol avait le droit de venir vendre son veau jusqu'à presque 12 mois en France sous le nom de escalope de veau. Donc, comme vous le voyez, c'était injuste tout ça. Et ça trompait aussi le consommateur. Alors, la Commission a dit, bon, vous avez légiféré en matière de veau et de vente de veau. Et je vois que c'est du cafouillage partout, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Ici, c'est 6 mois, là, c'est 8 mois, là, c'est 9 mois, là, c'est 12 mois. Alors, ça ne va pas. Alors, moi, eh bien, Union européenne, je prends un règlement, et un règlement, je vous ai dit la force que ça avait, et par ce règlement, je fixe l'âge pour les veaux. Et désormais, il est écrit que la bête doit être abattue au plus à 8 mois. Donc, vous voyez, on a fait une demi-mesure. 6 mois, c'était la thèse de la France. Car la France soutenait qu'au-delà de 6 mois, le veau, il faut le nourrir par des aliments extérieurs au lait et que ça enlève sa blancheur de sa chair et que ça développe chez lui éventuellement quelques maladies. Donc, il fallait à tout prix 6 mois. Mais la France n'a pas pu tenir, puisque l'Union européenne a imposé 8 mois. Et les Espagnols ont perdu aussi, puisque de 12 mois, c'est descendu à 8 mois. Et la France y a perdu aussi, puisque la qualité de nos veaux, maintenant, c'est plus 6 mois, c'est 8 mois. Et là, voyez-vous, ça a unifié la règle de droit, ce qui veut dire que quand je suis en Pologne et que j'achète une escalope de veau, eh bien, même si je ne sais pas lire le polonais, eh bien, ça veut dire que la viande vient d'un veau, bien sûr, et a pas plus de 6 mois d'âge. Alors, vous voyez, ça nous montre que parfois, quand même, dans l'Union européenne, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, comme ici, unifiées pour une viande précise. Alors, si j'arrive maintenant à la table de France, alors, nous sommes un des rares pays au monde, sans doute même le seul, à avoir une telle législation alimentaire pour des raisons historiques et une telle jurisprudence. Une jurisprudence, ça veut dire des décisions des juges. Vous ne pouvez pas soupçonner tout ce qui a pu être jugé. Des choses incroyables. On se demande sur quoi on n'a pas jugé. Vraiment. Hein, moi qui travaille là-dedans toute la journée, hier encore, j'examinais un arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait jugé qu'on pouvait licencier le chef d'un relais château. C'est pas rien, un relais château en France. Hein, parce qu'il avait servi pour un soir à tous les gens qui avaient pris ce plat, eh bien, un plat avec des morilles et une asperge. Et il avait mis de chaque côté de l'asperge les morilles. Ça ressemblait à des testicules et une verge. Et alors, paraît-il, ça a fait un scandale dans la salle et les employeurs l'ont licencié pour ce motif. Les juges avaient donc à dire si c'était une cause sérieuse de licenciement du chef cuisinier, l'hôtel est 5 étoiles, mais pas le restaurant, hein, d'un restaurant donc tout de même vraiment gastronomique, pour avoir mis dans l'assiette une telle décoration qui laissait, bien sûr, eh bien, penser que c'était des testicules et une verge. Alors, les juges ont dû examiner ça de près et ils ont conclu, en appel, car en première instance, ils n'avaient pas admis qu'on voyait ça, mais en appel, ils ont admis que c'était bien ça qu'on y a à l'assiette et qu'il avait commis une faute grave et il a été licencié. C'est fort intéressant. On m'aurait demandé, est-ce qu'on a jugé, monsieur, sur des morilles qui deviennent des testicules? J'aurais dit, c'est quoi ça? Ça n'existe pas, ça. Eh bien, vous voyez, si, on découvre tous les jours quelque chose. On juge sur tout. Alors, pourquoi la France est si riche en législation alimentaire et en jurisprudence? Alors, la France est riche en législation alimentaire parce que, si vous voulez, tout s'est fait, on pourrait dire, au moment de la Révolution de 89. Mais je suis avancé, hein, rassurez-vous, hein, je ne vais pas faire année par année. Hein. Je disais donc qu'un petit peu avant 89, il y a une corporation extrêmement puissante à Paris qui est la corporation des traiteurs. Les traiteurs ont le monopole de fabriquer des aliments que les gens viennent chercher ou qu'on leur livre. Un peu comme aujourd'hui. Et c'est une des corporations très puissantes à Paris. Ce n'est pas la seule. Il y a la corporation des bouchers qui a laissé la tour des bouchers, la corporation des bateliers qui a laissé l'effigie du bateau de Paris, comme vous le savez, etc. Mais celle des traiteurs était très hargneuse. Elle défendait son monopole, car les corporations avaient chacune un monopole. Et alors arrive un certain boulanger, surnom Chantoiseau. Sympa déjà, hein ? Et il s'installe au 1 rue des Poulies, une rue qui a disparu aujourd'hui, mais qui était un peu vers le Louvre. Et il s'installe dans un endroit. Et là, il fait des grandes marmites dans lesquelles il fait cuire des viandes, des volailles et des légumes. Donc, un espèce de bouillon réconfortant. Et les gens venaient chez lui pour se requinquer, pour se restaurer. D'où est né ici le nom restaurer, restaurant et restaurateur. Ici, à ce moment précis. Aussi sec, la corporation des traiteurs lui fait un procès qui va durer un certain temps. Pour lui faire fermer boutique, parce que Champ d'Oiseau, il avait mis des tables, des chaises et on pouvait venir manger sur place. Et les traiteurs ont très bien compris tout de suite l'ombrage que ça pouvait leur commettre. Et alors finalement, Champ d'Oiseau a fini par gagner devant le Parlement de Paris. Parlement, ça veut dire juridiction supérieure à l'époque. Alors Champ d'Oiseau, il a étendu sa carte. Il a mis des paupiettes, il a mis des ragoûts, etc. Et il va se passer un fait que tout le monde connaît, la Révolution. Alors on décapite les nobles, le haut clergé. Et les grands cuisiniers de ces maîtres décapités se retrouvent sur le pavé, puisqu'ils sont en fuite ou ils sont morts, guillotinés. Alors ces grands cuisiniers, qui eux ont le savoir, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils suivent l'exemple de Champ d'Oiseau et ils vont essaimer, c'est-à-dire s'installer restaurateurs, notamment tout autour du palais royal. Et comme ils ont le savoir, ils vont bien sûr faire des cartons, puisque la bourgeoisie issue de la Révolution, qui a de l'argent, pour certains quand même, faut pas exagérer, eh bien, va fréquenter ces restaurants qui, au fil du temps, eh bien, vont devenir petit à petit eh bien, les grands restaurants autour du Palais Royal et qui vont ensuite essaimer dans le reste de Paris et qui va faire de Paris le cœur mondial de la gastronomie. C'est par ce fait-là. Mais ça n'aurait pas suffi s'il n'y avait eu que ça. Au même moment, trois grands juristes interviennent. C'est pas parce que je suis juriste que je dis ça, c'est le fait historique. Un premier grand juriste intervient, il n'est pas très connu, Joseph de Berchoux. C'est lui qui a donné au mot gastronomie le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Il était juge d'instance, mais poète à la fois. Et dans un grand poème qui s'appelle L'homme au champ, eh bien, c'est là qu'il développe le mot gastronomie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Le mot a été forgé au sens d'aujourd'hui par Joseph de Berchoux. Puis arrive un deuxième juriste, avocat, richissime personnage, Crimaud de la Reynière. C'est lui qui est le père de la critique gastronomique et qui est le père des guides gastronomiques. Puis arrivera le troisième grand juriste, juge au tribunal de l'Ain, qui finira conseiller à la Cour de cassation, ce qui n'est pas rien tout de même, plus haute juridiction de France. C'est bien sûr Brillat Savarin, qui avec sa physiologie du goût, fera de la gastronomie une science. Et tout ça se passe à cette période de la Révolution, légèrement avant et légèrement après. Et ces trois juristes-là qui vont complètement tout bouleverser par leur science, leur culture, et ces restaurants qui sont ouverts par ces grands cuisiniers, des grands décapités, si on peut dire, eh bien, va faire que Paris va devenir l'enseigne mondiale. Alors vous allez dire, ouais, c'est très bien, mais alors ça ne donne pas du droit, ça. Non, ça ne donne pas du droit. Mais la fraude est partout. Elle se glisse entre l'achat et la vente. Ah, on fraude sur tout. Même sur le lait, qui entraîne la mort de beaucoup de nourrissons. Et même sur le vin. Alors vous imaginez là la réaction du législateur. Car si vous ferez des ulpinards, alors là c'est le pire de tout en France. Nous sommes dans les années 1900. Et cela a donné, quelque temps après, la fameuse grande loi de 1905. La grande loi 1905 s'appelle la loi sur les fraudes et falsifications. Cette loi, elle est votée pour enrayer toutes ces fraudes que l'on constate à l'époque. Et alors, elle est très courte, cette loi. Elle est comme une voiture sans roues. Elle pose quelques principes. Elle rappelle ce que c'est que la tromperie, ce que c'est que la falsification. La tromperie, elle porte sur le contrat. Quand je vous dis, par exemple, ce miel vient de Haute-Provence, alors que ce miel vient de Chine, ça, c'est tromperie. Par contre, la falsification, c'est quand on s'attaque au produit lui-même. Par exemple, quand je mets du sucre dans du miel, ça, c'est falsification. Quand je mets de l'eau dans du vin, ça, c'est falsification. Quand je retire de la crème du lait, et que je ne vous le dis pas, c'est falsification. La falsification s'attaque au produit, alors que la tromperie porte sur le contrat. Alors, tout ça pour expliquer que la loi 1905 est très courte. Pourquoi elle est si importante? car elle a éclairé beaucoup de pays du monde. L'Espagne s'en est servie, même des pays comme les pays d'Amérique latine après ont copié en quelque sorte. C'était une loi qui a presque fait le tour du monde, un peu comme le code civil de Bonaparte, si vous voulez. Hein. Bon, alors tout ça, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Cette loi est très courte, mais elle dit quelque chose à la fin. Elle dit que des décrets et des arrêtés, ça veut dire des actes pris par le gouvernement, définiront les produits, ça veut dire leur donneront une dénomination de vente et indiqueront leur processus d'élaboration. Et il y a eu 1052 arrêtés qui ont suivi, 1052 arrêtés, définissant à la verticale tel produit, tac, 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 tac. Et puis il y a eu quelque chose comme 506 décrets définissant tel produit, tac, 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 le nom, comment on le fabrique, comment il doit être fait. Et alors, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé tout. Désormais, les juges, et c'est propre à la France, ça, avaient une référence. Lorsqu'on poursuit un fraudeur pour voir s'il a bien respecté les règles ou si au contraire il a fait une fraude, eh bien le juge désormais, il a le texte pour voir si vous avez mis dans le produit les ingrédients tels que c'est indiqué. Et ainsi, voyez-vous, ça a développé notre jurisprudence. Voilà pourquoi la France a depuis longtemps tant de jugements et d'arrêts surtout. Jugement, c'est quand les tribunaux de première instance, les arrêts, c'est quand les cours d'appel ou cours de cassation. Parce que depuis longtemps, nous avons des textes qui ont défini à la verticale produit par... Aujourd'hui, par exemple, il en reste encore un peu, de moins en moins, parce que le droit communautaire, quand il intervient, je vous ai dit, il écrase, il supprime nos droits nationaux. Donc, ces textes, parfois, qui sont supprimés. Mais il reste, par exemple, encore des textes magnifiques. Si vous lisiez, par exemple, le décret qui définit la crème chantilly, rien qu'à lire le texte, on a faim, on a envie d'en manger, de croquer dedans, c'est magnifique. Hein, on vous explique comment on l'a fait et à quelles conditions elle peut s'appeler chantilly. Quand vous lisez les décrets sur la moutarde, alors moutarde de Brive-la-Gaillarde, moutarde de Dijon, moutarde de ceci, moutarde à l'ancienne, moutarde de Meaux, c'est magnifique, on voyage, ça donne faim, voyez-vous. Et les juges avaient désormais une référence. Et alors s'ajoute à cela, mais ça, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, vous le savez si vous êtes français, le français est un chicaneur, un pinailleur par culture et tradition. Vous le savez bien, quand on est à l'étranger, qu'il y a une queue à l'aéroport, par exemple, si vous avez 200 personnes qui font la queue et un au milieu de la queue qui rouspète, à tous les coups, il est français, celui-là. Eh bien, c'est pareil. En France, les gens font des procès aux restaurateurs, pour prendre ce domaine plus particulier, pour des fois rien. Des gens sont allés jusqu'en cassation pour une langouste servie au restaurant, pour faire juger que les langoustes de l'Atlantique sont plus fines que les langoustes de Méditerranée qui sont eau chaude. Donc, voyez-vous, on avait jusqu'au Conseil d'État pour faire juger qu'une échalote n'était pas un oignon, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Donc, voyez-vous, on ne peut pas s'imaginer comment les gens luttent pour le droit. Alors certains diront « ouais, c'est un peu exagéré, etc. » Mais non, parce que si ces gens ne faisaient pas ces procès, et s'ils ne les menaient pas jusqu'au bout, appel pour en cassation parfois, qu'est-ce que nous mangerions alors ? Puisque déjà avec ces procès, hein, on est souvent trompé. Alors, les juges français sont assez bons pour ça. Et c'est rare qu'ils fassent des dérapages. Pour vous montrer comment c'est difficile d'être juge sur ces questions alimentaires. Tiens, là un exemple. Et puis après, je donnerai un deuxième exemple de dérapage, et puis, ma foi, il faudra les manger. Alors, regardez bien, un exemple qui montre comment c'est difficile pour un juge. Tiens, tenez, tribunal d'instance de Carvin. Alors, Carvin, il faut une loupe pour trouver sur la carte de France, c'est vers Lille, un peu par là. C'est pour vous dire que nous sommes dans un petit patelin, Carvin, un petit juge, on va dire. Et il a jugé une question de droit très compliquée. Peut-on encore appeler omelette un produit dans lequel on a ajouté un peu de lait? J'explique. Le service des fraudes fait un contrôle et un professionnel met du lait pour faire ses omelettes. Le service des fraudes prétend que ça n'a pas le droit au mot omelette qu'on appelle dénomination de vente puisque vous ajoutez du lait. Vous devez appeler cela préparation aux œufs et au lait. Alors, c'est pas très commercial, hein. Une Saint-Valentin, ma chérie, tu prendras bien une préparation au lait aux œufs, hein? Non. Alors, l'autre n'en démord pas. Il dit, non, ça a le droit de s'appeler omelette. On peut mettre du lait dans l'omelette. Ça s'appelle toujours omelette. Alors, service des fraudes verbalise, poursuite, et le procureur poursuit. Et le tribunal de Carvin, le juge de Carvin, sur, il faut bien le dire quand même, la proposition de l'avocat du prévenu. L'avocat s'appelait Maître Le Poutre, pour vous dire qu'ils ont laissé leur nom dans l'histoire, ainsi que le juge. Mais c'est d'hier, ça a été jugé. L'avocat Le Poutre propose au juge qu'en vertu de ce qu'on appelle son pouvoir d'audience, car un juge a un pouvoir d'audience, c'est-à-dire qu'il peut ordonner des choses qu'autrement il ne pourrait pas ordonner. Alors, monsieur le juge, ordonnez dans votre pouvoir d'audience que j'amène à l'audience une omelette qui sera déjà faite et que nous ferons réchauffer avec un micro-ondes que j'apporterai à l'audience. Car le temps du tribunal est précieux, le juge n'a pas beaucoup de temps, il faut faire vite. Le juge a accepté et à l'audience, après qu'on ait chauffé l'omelette avec, bien sûr, le lait, eh bien, le juge a goûté l'omelette dans son pouvoir d'audience et il a rendu son jugement sur le siège. Ça veut dire illico presto, immédiatement, sans renvoyer à 8 jours ou 15 jours. Et il a jugé ceci, et le jugement est réel, il existe, c'est pas quelque chose. Il a jugé qu'après donc avoir, alors par ses motifs, etc., il a jugé donc qu'après avoir goûté, eh bien, le produit avait bien d'abord la forme de l'omelette. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la forme de l'omelette, omelette vient de lame, un dérivé de lame, lame d'épée. Parce que vous savez, quand on a fait l'omelette dans la poêle, après on la plie en deux dans la poêle, hein, et puis avec un torchon propre dans, le, hein, dans le, l'assiette, on lui donne cette forme et ça ressemble à une lame. De là vient le mot omelette. Alors, le juge, il s'y connaissait déjà, un juge. Un, ça a bien la forme de l'omelette. Deux, ça a la couleur de l'omelette, car le lait aurait pu, évidemment, changer la couleur, hein, ça va de soi. Et trois, ça a le goût de l'omelette. Et le juge a conclu qu'on pouvait faire l'omelette avec lait, L-A-I-T, avec les œufs. Voyez-vous ? Mais le juge précise bien que l'omelette contenait 2% de lait. Car les arrêts, les jugements, il faut savoir les lire. Le juge de Carvin ne vous dit pas qu'on pourra mettre 3 litres de lait et un œuf. Il vous dit qu'en l'espèce, il n'y avait que 2% de lait dans l'omelette et que pour cette raison, elle pouvait encore conserver son nom d'omelette. Mais si maintenant vous mettez 8% de lait, le juge de Carvin ne vous dit pas qu'il va l'appeler encore omelette et qu'il faudra peut-être l'appeler cette fois-ci préparation aux œufs et au lait. Donc les arrêts, c'est comme le marc de café, il faut savoir les lire. Et enfin, pour terminer, je vous disais un dérapage, car je pourrais vous citer 1000 arrêts, surtout, un dérapage. Un des plus beaux dérapages a été rendu par la cour d'appel de Rennes dans l'affaire du coq au vin. La cour d'appel de Rennes juge qu'on peut servir un coq au vin alors que ce n'est pas un coq, mais qu'il s'agit d'un poulet ou d'une poule, voire d'un coquelet. Alors, c'est un coup de tonnerre, parce que la jurisprudence en matière de coq au vin, c'est que depuis tout le temps, on a jugé qu'il fallait un coq, mais un vrai coq. Ça a été jugé à Vesoul, ça a été jugé à Bourges, et les juges ont condamné pour tromperie les restaurateurs qui servaient du coq au vin en y mettant un poulet ou une poule. Et à fortiori un coquelet, pourquoi pas un poussin non plus. Et l'arrêt de la cour de Rennes, eh bien, évidemment, incroyable. Et si ça avait été clairé de la cour de Rennes, on aurait dit « ouais, un arrêt ne fait pas le printemps ». Mais c'est que tout de suite après, quelques années après, 3-4 ans après, le service des fraudes est venu dire « nous ne verbaliserons plus, on ne va plus verbaliser ceux qui feront du coq au vin en remplaçant le coq par du poulet, de la poule ou du coquelet ». Ce qui veut dire que maintenant on peut y aller, vous risquez plus rien. Comment en est-on arrivé là, au pays de la gastronomie ? Eh bien, il faut revenir à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes pour comprendre. Les juges constatent les larmes dans les yeux en quelque sorte. Que le coq, le macho du poulailler, il n'y en a qu'un par troupeau de volailles. Et c'était le domaine traditionnel des femmes. Car la femme du paysan, du fermier, elle s'occupait du cochon et de la volaille. Et les juges constatent que il n'y a plus de petites fermes en France, et qu'il n'y a donc plus de volailles, et qu'il n'y a plus de femmes pour s'occuper donc des volailles. D'où on est obligé d'admettre que faute de grives, on mange des merles, faute de coqs, il va falloir appeler coq au vin désormais ce qui est que poulet, ou ce qui est poule, ou ce qui est coquelé. Et ça en dit long, voyez-vous. Alors, le drame, c'est que donc au restaurant, on peut désormais vous servir un coq au vin avec du poulet ou avec une poule. Mais pourrait-on même supprimer le vin ? C'est possible, puisque la Cour de cassation a jugé que si on mettait 20 et 0 degré à côté, ce qu'on appelle du jus de raisin, vin désalcoolisé, eh bien, ça pouvait donc se mettre 20 avec 0 degré. Ce qui fixait un restaurateur, vous faisiez un coq au vin avec du vin désalcoolisé, vous auriez un coq au vin, en fait, sans coq et sans vin. Et voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'aurais terminé. Si vous avez quelques questions, des cas personnels, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, vous avez quelques cas personnels, oui. Mais j'en prie. Oui, oui.
Oui, vous avez dit que le Codex Alimentarius était géré par l'OMS et
alors,
la FAO.
Et la FAO. La
et l'OMS, vous avez dit que c'était l'Organisation mondiale du commerce.
Pardon ?
C'est l'OMC, alors.
C'est le Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius, il est sous l'égide de l'OMS et de la FAO.
Et l'OMS, c'est
l'Organisation mondiale de la santé. À l'OMS, tout seul. À l'OMS n'est pas...
Pardon ? C'est la santé, pas le commerce.
L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC est à part.
Ah,
oui.
C'est l'OMC.
Il y a l'OMC d'un côté, ça c'est l'histoire du bœuf aux hormones, hein. Et puis l'OMS et la FAO, c'est le Codex Alimentarius. Voilà, c'est ça. Hein. Parce qu'il faut des finances, et puis il faut organiser. Hein. Il y a un secrétariat important, etc. Et puis il y a des États qui participent plus financièrement que d'autres, vous en doutez. Hein. Donc c'est ce qu'on reproche au Codex Alimentarius, c'est qu'il y a une espèce de bande qui fait en quelque sorte ses propres normes, laissant les autres États, ma foi, à la marge, quoi. Oui ? Bah écoutez,
si vous n'avez pas de canard, vous prenez du boudin. Et si vous n'avez pas d'orange, vous prenez des pommes.
Ah ouais, bah on peut arriver, finalement, si on va très loin, je vois ce que vous voulez dire, on pourrait arriver à des choses comme ça, voilà. Alors bon, il y a quand même des limites, à un moment donné, les magistrats, quand même, vont dire que ça n'appartient plus à la même famille de produits. Hein, c'est une réserve que l'on met souvent dans nos décrets aujourd'hui qui réglementent des aliments. Parce qu'on craint que d'autres pays membres nous envoient sous le même nom des produits qui, en fait, ne ressemblent pas du tout à ce que nous connaissons sous ce nom. Alors, dans nos décrets, on met qu'on pourra s'y opposer, c'est pour faire échec à la jurisprudence cassise de Dijon, on pourra s'y opposer si le produit que nous envoie l'Allemand n'appartient pas, finalement, à la même famille. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le décret sur les galantines, sur les mousses de foie, il faut, en France, qu'il y ait 50% de foie gras pour que ça ait le droit à galantine ou que ça ait le droit à mousse de foie, foie de canard ou foie d'oie. Il faut qu'il y ait 50% de foie gras. Donc, dans ce décret, on a mis cette clause que si on nous importait sous le nom de galantine ou de mousse de foie des produits qui seraient très différents de par leur composition, leur fabrication, au point qu'ils n'appartiendraient pas à la même famille de produits, dans ce cas-là, on pourrait s'y opposer. Mais ça serait sous réserve du contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, hein, qui aura à se prononcer, finalement, hein, et dire si c'est conforme. Donc, on met souvent cette clause, justement, pour montrer qu'à un moment donné, parce que sinon, on arrive à des trucs incroyables. Hein. Bon, beaucoup de gens ne savent. Mais vous savez, des fois, c'est très subtil. Par exemple, prenez la dorade. Si le pauvre, parce que le restaurateur, des fois, c'est vrai, des fois, il est honnête. Il s'est fait piéger par la DGCRF, mais il ne savait pas. Ben, cela dit, nul est censé ignorer la loi. Hein. C'est comme ceux qui conduisent que n'écolent pas de la route. Hein. Ils sont pris, ils sont pris. Hein. Prenez par exemple la dorade. C'est très complexe pour un restaurateur. S'il écrit dorade à l'ardoise ou sur son menu ou à la carte, DAU, il faut forcément qu'il ait servi la dorade royale, la plus chère. Voyez-vous, sinon il fallait qu'il écrive dorade DO, car DO c'est la dorade commune, DAU c'est que la dorade royale. Le problème c'est que si vous prenez le Larousse ou le Petit Robert, il donne les deux orthographes comme étant synonymes. Donc prenez un restaurateur un peu honnête qui est soucieux, est-ce que je dois écrire dorade DAU ou DO Ginette sort le Petit Robert. Alors on regarde et le Petit Robert vous dit c'est pareil. Vous écriviez DAU ou DO, c'est pareil, c'est dorade. Alors il y va. Bon, il a choisi DAU, hein, dorade. Et puis passe après le service des fraudes, la DGCRF. Elle utilise un autre dictionnaire qui est un décret de 1957 remis à jour régulièrement qui fixe le nom des espèces de poissons. Elle n'utilise pas le Petit Robert, elle. Hein, et elle va lui expliquer que dans ce décret, eh bien, dorade DAU, c'est forcément dorade royale. Dorade DO, c'est forcément dorade de droit commun, la grise par exemple, autrement dit qui vaut beaucoup moins cher et qui a moins de qualité aromatique. Et donc, mon cher restaurateur, vous avez commis donc une tromperie, paf, 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Et vous voyez le pauvre restaurateur, voilà quoi. Il y a plein de trucs, quand même. Mais le restaurateur dira qu'il ne peut pas, il n'a pas le temps. Un restaurateur, ça se lève à 5h du mat, ça se couche des fois à minuit. Comment voulez-vous qu'il détende tout ça? Mais on fera remarquer que c'est dans tous les métiers pareil. Hein. Quand on est médecin, on doit être au courant de tout. Quand on est chauffeur, conducteur, au courant des dernières innovations, des derniers signaux, etc. Mais des fois, c'est vraiment très subtil. Prenez, ça vous avez souvent été témoin, vous asseyez au restaurant, puis on vous dit « Ah ben ça, il n'y en a plus !»« Ah ben là, je prends ça. Ah, il n'y en a plus !» Alors, n'empêche que vous êtes là, vous attendez depuis 20 minutes, puis vous commandez, puis on vous dit « il n'y en a plus ». Ce qui fait que bah, vous n'avez plus le temps de ressortir, d'aller ailleurs chez un autre restaurant, et vous prenez finalement un fil de hareng, alors que vous étiez rentré peut-être pour un coq au vin. Hein, voilà. Bon, alors, les juges là-dessus, ils sont très clairs. Quand il n'y en a plus, il faut que le restaurateur le signale immédiatement, à la fois à sa carte et à son menu qui est dehors, et à la fois sur la carte et menu qui est à l'intérieur. Car vous savez que les restaurateurs ont une contrainte particulière, il faut qu'ils affichent et à l'extérieur et à l'intérieur, la carte ou l'ardoise, etc. Et la question, et regardez, c'est en ça que c'est subtil, mais il faut le signaler au consommateur comment qu'il n'y en a plus. Alors évidemment, si le restaurateur, avec son stylo, il raye complètement sur sa carte ou son menu, on voit bien que là, qu'il n'y en a plus. Mais le restaurateur va vous dire, je ne fais pas ça parce que ça me fiche ma carte par terre. Ma carte, je ne vais pas la refaire tous les jours. Ça coûte cher, des fois, une carte, quand elle est bien stylée, etc. Donc, il n'est pas question. Alors, il dit, j'ai fait une croix, monsieur le juge. J'ai fait une petite croix devant le plat qui n'avait plus. Et le juge, eh bien, va rentrer en votre condamnation. Car il va dire qu'en mettant la croix à côté du plat qui manquait, mon pauvre restaurateur, vous avez aggravé la situation. Vous trompez encore davantage le consommateur. Alors, le restaurateur, vous imaginez, le pauvre, il ne comprend rien. Il ne sait plus ce qui lui arrive. Et c'est facile à comprendre pourquoi le juge ici va faire preuve de sévérité. C'est que si vous mettez une croix à côté d'un plat, comme les gens passent dans la rue et regardent votre carte, ils se disent « c'est la spécialité de la maison, il a mis une croix, il signale, c'est le plat, il faut rentrer, viens Raymond, on va se prendre un coq au vin ». Alors on attend déjà depuis une demi-heure, car c'est la bourre hein, dans le restaurant, et puis enfin on arrive pour nous présenter le menu, et c'est là qu'on nous dit « bah non, il n'y en a plus, bah, il y a une croix, mais non, il n'y en a plus, la croix veut dire qu'il n'y en a plus ». On n'a plus le temps d'aller chercher à manger ailleurs et on se retrouve avec notre fil de hareng. Voilà pourquoi le juge dit la croix. Il ne faut pas la mettre à côté du plat manquant ou devant. Il faut mettre la croix dessus. D'ailleurs, le petit pop ne s'y trompe pas. Quand il n'y en a plus, on fait une croix dessus. Et voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, continuez bien à manger, à vous régaler, à faire plein de choses. Question d'intérêt général. Parce que c'est une question particulière, je mets la TVA en route, hein, oui, c'est 20% en consultation.
C'était une précision, vous savez, là, pour la viande aux hormones, quand on a été condamné. Vous avez dit qu'on avait accepté, la France puis l'Union européenne, d'avoir de la viande de haute qualité. Ça voulait
oui,
dire qu'on
après, ça
de la
sera en 2012, hein, pour ah oui, mettre fin...
Ça sera de la viande sans hormones, c'est ça, c'est de la viande...
Ah bah, on
c'est...
peut espérer que dans l'engagement diplomatique, vente de qualité veut dire sans hormones, oui, bien
ça
sûr.
Ça reste quand même un petit peu flou.
Oui, le langage diplomatique, vous savez ce que oui, ça veut oui, dire, oui, c'est-à-dire d'accord. qu'on emploie des mots qui en fait vont faire qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. On... Oui, oui. Vous savez, après une
chacun
grève,
garde ça,
vous savez
voilà.
bien, après
personne
une grève,
ne perd
tout le
face.
Monde a gagné. Hein.
Oui, voilà.
Le patronat, eh ben, c'est un peu la même chose.
Dans personne ne perd la face. Voilà,
voilà personne ne perd la face. Voilà. Alors, sans doute qu'il y a des journalistes au canard déchaîné qui ont dû aller enquêter qu'est-ce qui est arrivé après. On ne sait pas. Enfin, dès qu'un jour, on apprendra qu'eux. Voilà, et savoir.
Je vous remercie.
Très bien. Oui. Eh bien, le restaurateur avait mis au menu de la langouste qu'il annonçait comme étant des eaux froides de l'océan Atlantique, alors qu'en été, elle était de Méditerranée. Et le client, qui était un connaisseur apparemment, donc il prétendait qu'il y avait des tromperies, car sa langouste était de Méditerranée, et non pas, comme vous l'annoncez, des eaux froides. Et les juges ont eu à dire s'il y avait effectivement des différences organoleptiques importantes entre la langouste de Méditerranée et celle des eaux froides. Et les juges ont répondu que oui. Et ils l'ont rejugé une autre fois à propos de homard. Et les juges ont même jugé que, même une fois cuit, on pouvait encore reconnaître le homard canadien du homard breton. Et d'ailleurs, pour qui connaît les homards canadiens et les homards bretons, en dehors du prix qui nous montre la différence, on sait que ce n'est pas la même chose dans l'assiette. Hein. Donc les juges, là encore, ont bien ciblé. Hein, voilà. Alors pour le coq, les juges, à l'époque où ils disaient qu'il faut que le coq soit vraiment un vrai coq, les juges disaient, pour savoir si c'est un vrai coq, comme c'était jugé à Bourges, à Vesoul, ils disaient qu'il fallait tâter. Alors évidemment, les étudiants posent toujours la question, « Monsieur, tâtez où ? Qu'est-ce qu'il dit le juge ?» Parce que qu'est-ce qu'il faut tâter chez le coq pour savoir si c'est un vrai coq ou si c'est un poulet ? Alors, il faut tâter, disent les juges, le bréchet. Le bréchet, vous savez, c'est l'os qui est devant. Si l'os est ossifié, c'est un coq. Il est à l'état mature, sexuellement mature, donc il a le droit à l'appellation coq. Voilà. Parce que ce n'est pas le poids qui fait qu'on est coq. Parce que selon les races de volailles, le coq peut faire 2 kg, 2 kg 2, ou au contraire 3-4 kg. Donc c'est l'ossification du bréchet, car les juges ont dit que même une fois cuit, ça, ça peut encore se vérifier. Ah non, mais c'est très subtil, hein, c'est très intéressant. Hein. Il y a des juges qui s'intéressent vraiment aux choses. Hein. Puis des fois, ben, ils font des dérapages, quoi. Comme tout le corps d'arène.
Des fois, c'est complètement anodin. On voit au restaurant accompagnement légumes. Mais il faut toujours poser la question parce qu'en guise de légumes, ils vous servent des frites. Mais pour moi, les frites, ce n'est pas un légume.
Non, ce n'est pas vraiment un légume. Non. C'est haricots verts, etc.
Voilà, oui, exactement.
Oui. Ben, c'est le problème. Vous savez, moi, quand je vais au restaurant, souvent, je relève 3 à 4 infractions à chaque fois. Et des fois, je n'ai même pas besoin de rentrer. Ben, je passais devant un restaurant il y a 2 jours. Le type, il avait mis « cherchons serveuse ». Vous savez qu'aujourd'hui, c'est interdit. Il faut mettre « cherchons serveur ou serveuse ». Donc, si on l'avait verbalisé, il serait poursuivi et condamné. Hein. Vous n'avez plus le droit aujourd'hui de marquer « cherchons serveur ou serveuse ». Il faut mettre « cherchons l'un ou, enfin, serveur ou serveuse ». Mais lui, il avait mis que uniquement « cherchons serveuse ». Et donc, rien que là, sans rentrer dans le restaurant, il avait déjà commis une première infraction avant de rentrer. Alors, si déjà, il fait une tromperie avant qu'on rentre au restaurant, qu'est-ce que ça doit être si on rentre et qu'on mange ? Voilà. Bon. J'en veux, c'est, je finis par le manger là.